Le trash streaming. J'ai aucune idée de ce que c'est. Ah, c'est genre filmer en live des trucs hyper choquants? Quand il se passe des trucs choquants sur des streams, des choses comme ça? Ok.
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous accueillir en public cet après-midi en direct du studio 104 de Radio France. Zoom Zoom Zen spécial santé mentale aujourd'hui dans le cadre de la journée santé mentale. Des solutions existent sur Inter. Alors des solutions existent, moi je dis peut-être, mais dans l'équipe de Zoom Zoom, on les attend toujours. Prenons au hasard Quentin Luy, dont le directeur des programmes de l'époque, quand il me l'a refourgué, s'était bien gardé de me dire qu'il bossait sur France Bleu le matin, mais qu'il était soigné en hôpital de jour à Sainte-Anne l'après-midi. Hôpital psychiatrique où il devait être contenu physiquement, sans quoi il agressait les patientes en hurlant...
La bouillard.
Trois ans plus tard, grâce à un traitement lourd administré quotidiennement par notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière, qui le gave de pilules avec un grand entonnoir, Quentin va mieux. Mais le mal dont il est atteint est hélas incurable, puisqu'il s'agit en effet d'une version extrême d'un trouble dissociatif de l'identité, Quentin étant persuadé d'être plusieurs personnes à la fois, la moitié de ces personnes étant des chanteurs décédés ou en voie d'eux. Vous parlez avec lui et soudain...
À ma soir, contre un bar, 5 minutes avec Noche. Écoutez la Marianoche.
Qui sera-t-il aujourd'hui? Renaud, Eddie Mitchell, Joe Dassin, Claude Nougaro ou bien Dave?
Non, rappelle-toi.
Oh putain.
Que je ne suis rien sans toi.
Alors de grâce.
Vanina, si tu m'oublies.
Stop! Si les solutions existent, envoyez-les nous vite. On tiendra pas une saison de plus comme ça. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Mickaël Stora.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi, Mickaël. Vous êtes psychologue et psychanalyste spécialiste des mondes virtuels. On vous avait reçu il y a quelques mois pour nous parler du stalking. Cet après-midi, à l'occasion de cette journée spéciale santé mentale sur Inter, et alors qu'on a encore évidemment en tête le drame de Jean Portmanov, on va discuter d'un autre problème de société avec vous, le trash streaming, cette manière malsaine de consommer des contenus violents ou simplement choquants sur Internet. Vous allez nous expliquer pourquoi ce type de vidéo fascine autant de personnes et quels sont les mécanismes psychiques qui nous poussent à regarder ce genre d'image, parce que à une plus ou moindre échelle, on est tous un peu concernés par le phénomène. Juste le temps de vous présenter ma fine équipe. Bon alors, Quentin Luy, vous le connaissez, on ne va pas faire semblant de se réfugier derrière le secret médical, vous le suivez depuis plusieurs années maintenant. Bonjour Quentin.
Bonjour Mathieu, bonjour le 104.
Tous vos fans sont là, Quentin.
Bonjour Paris.
Quentin, qui chaque matin part à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre mot du jour. Alors Quentin, le trash streaming, est-ce que les gens voient ce que c'est?
Disons que Daniel, 83 ans, que j'ai rencontré ce matin, j'ai dû lui expliquer ce qu'était le trash streaming. Comme on dit, il n'avait pas la ref, le Daniel. Mais sinon, à la sortie du lycée, on a bien identifié ce problème, ce cercle vicieux des vidéos de plus en plus trash. Vos réponses complètement la rue, si j'ose dire, c'est dans la prochaine demi-heure.
À vos côtés, Mickaël Stora, elle n'a jamais regardé d'images extrêmes sur le net. C'est une jeune femme pure, réservée, presque une sainte. En revanche, et c'est étrange parce que c'est la même adresse IP, une certaine Carole Buisson est une grosse consommatrice de vidéos hardcore assez extrêmes. Carole Buisson qui a d'ailleurs été bannie du site de rencontre Droite au cœur pour photos de profil non conformes à la politique de modération de la plateforme. Peut-être le latex, peut-être aussi les pinces à urètre.
Mais
dommage. Sa bio...
Mathieu, en public, oh là là.
Peut-être même avec des enfants. Dommage, sa bio donnait envie, je cite...
Je porte la culotte, c'est moi qui pilote.
Manon, ça vous résume bien.
J'aime beaucoup cette punchline.
Manon, dans votre pièce jointe aujourd'hui.
Un genre de film assez glauque, très controversé et surtout dont on doute même de l'existence. Ils mettent en scène des meurtres, des viols ou de la torture. Je vais vous parler des snuff movies.
Ça existe encore, ça, les snuff movies?
Vous verrez, Mathieu.
Je pense que c'est une légende urbaine.
C'est un peu une légende urbaine.
Que fout Pierre Courade autour de cette table est une question que vous posez probablement dans le studio 104. Eh bien, il est là, notre rédacteur en chef adjoint, pour recueillir vos questions au cours de l'émission, n'est-ce pas Pierre?
Absolument. Si vous avez des questions, évidemment, après les explications de Mickaël Stora, notre invité, vous me faites signe et je viendrai à votre rencontre.
Vous êtes poser des questions. Vous êtes la courroie de transmission de cette émission.
Absolument, oui, une sorte de Jean-Pierre Descombes, on va dire.
Vous faites une minute à chaque fois que vous parlez, en fait.
Un tunnel.
Vers 16h30, nous partirons à la découverte, non pas des streams les plus violents, on n'est pas maso et les enfants nous écoutent, mais des streams les plus insolites du web. Une fois de plus, le Zoom Zoom Test vous étonnera, mais pas son vainqueur, puisque ce sera Manon. Juste avant 17h, on retrouvera le virevoltant Guigui Pop, très excité à l'idée de performer aujourd'hui en public. Après 17h, on accueillera Camille Chamou, dont le spectacle traite justement de la maladie mentale. Mais d'abord, Mickaël Stora, on va se pencher sur ce phénomène qui semble prendre de l'ampleur, le trash streaming. Quand on regarde un live en encourageant des actions violentes ou extrêmes, est-ce que ce trash streaming nous a fait entrer dans l'ère d'un voyeurisme malsain à grande échelle finalement?
Oui, alors d'abord, le voyeurisme est-il malsain?
Ah.
Oui, c'est une question. Ah. Vous êtes voyeur en tant que journaliste, quelque part.
Je ne suis pas trop journaliste, mais...
Mais vous sublimez ce voyeurisme en essayant de comprendre les choses.
Ah, j'aime ça, oui.
Et oui. Maintenant, oui, nous sommes dans une société d'images qui, depuis la télévision et en effet avec Internet, est devenue de manière complètement, je dirais, planétaire. Et d'une certaine manière, on voit que les contenus malsains, cruels ou autres, surtout créent énormément d'engagement. Parce qu'ils ont une forte dose émotionnelle et donc les gens vont regarder cela et les plateformes l'ont bien compris.
Et donc les plateformes, l'algorithme a tendance à nous recommander ce genre d'image parce que ça crée de l'engagement. C'est un cercle vicieux en fait.
C'est un cercle vicieux et qui rapporte beaucoup d'argent.
Lui, il a connu l'ancêtre du trash streaming, la bonne vieille Bitocirage. Incontournable du service militaire pour plusieurs générations de Français, ce bizutage potache, s'il n'était pas sans risque pour la tribu virile, avait le mérite de n'être ni filmé ni encore moins commenté en live par des milliers de streamers. Ce qui se passe à la caserne reste à la caserne, disait Cyril, à chaque nouvelle recrue tentée de porter plainte. Bonjour Cyril.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Alors racontez-nous Cyril, ce trash streaming, si j'arrive à le dire correctement, d'où ça sort?
Eh bien imaginez un type filmé en direct chez lui, dans la rue, n'importe où en fait. Ce type est soumis à des défis dangereux, il se fait insulter, on se moque de lui, on l'humilie, et plus il en prend plein la gueule, plus le compteur de gens qui regardent progresse, et plus la cagnotte grossit, car oui, le public paye pour participer à ce show. Un spectacle qui n'est ni une performance de rue, ni une émission scénarisée, c'est du trash streaming. Si vous avez vu le premier épisode de la dernière saison de Black Mirror, alors vous savez de quoi je parle, et il y a plusieurs origines à ce phénomène. En Russie et en Pologne, on parle de pato streaming, quand des streamers font des actions dangereuses en direct sur Internet pour récolter des dons. Alors ça a marché, ça a permis de récolter des fonds, mais ça a aussi attiré l'attention des autorités, au point que certains pays ont interdit ce genre de spectacle.
Mais si on remonte un peu plus loin, avant ces streamers, il y a eu une émission de télé.
L'émission américaine Jackass, c'est en l'an 2000 qu'elle apparaît sur MTV et c'est un phénomène immédiatement. Il y aura 3 saisons de Jackass qui va donc faire des émules sur Internet. Jusqu'au moment où ce qui était un spectacle fait une irruption ultra-violente dans la vraie vie. On l'a entendu, on l'a su avec la mort de Jean Pomanov, Raphaël Graven de son vrai nom. Une mort vue en direct sur la plateforme Kick. Le trash streaming, c'est l'histoire d'un glissement. Du jeu vidéo et des lives conversationnels au spectacle de l'extrême en direct. C'est aussi celui d'un public qui ne se contente plus de regarder mais qui devient un acteur en payant. Alors, d'où ça sort le trash streaming? Eh bien de là, et c'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Michael Stora, Cyril nous le rappelait, le trash streaming, ça ne date pas d'aujourd'hui. Jackass, c'était il y a 25 ans. Mais c'est en fait une lente dérive à laquelle on assiste aujourd'hui avec des personnes qui se font du mal sur Internet en étant plus ou moins consentantes. Il faut bien le dire, il y a une sorte de Jackass, c'est des professionnels quelque part. Là, maintenant, c'est un peu des amateurs qui jouent à se faire mal.
Oui, alors en même temps, bon, ce qui est vrai, c'est que l'histoire de Jean Pomanov est venue montrer, alors j'aimerais le rappeler, c'était, semble-t-il, un handicapé mental. Il était sous tutelle et au fond, il représentait, je dirais, pour beaucoup de personnes qui regardaient, il venait un petit peu, comment dire, finalement faire flamber quelque part le sadisme. Parce que c'est ça. Il faut bien comprendre, pour revenir au terme de voyeurisme, le voyeurisme, c'est une pulsion d'emprise dont le but est de réduire l'autre à une image, à un cliché. Et que donc, dès qu'on a affaire à quelqu'un qui est amoindri, qui est différent, il y a une sorte de peur et on va devoir la rejeter ou la sadiser. Donc c'est vrai qu'il y a cette tendance-là. Pourquoi est-ce que dans notre société, il y en a plus? Puisque c'est un petit peu ça. C'est très compliqué comme question. Finalement, parce que derrière, on est peut-être dans une société où la question de l'idéal, de l'idéalisation de réussite, de beauté, etc., devient de plus en plus folle. Donc, il y aurait finalement aussi le fait que dès qu'on n'est pas à l'image de ce qu'il faudrait être, il faut écarter cette personne. Et on voit bien comment les plateformes elles-mêmes ont érigé justement ces idéaux-là dans quelque chose d'inatteignable. Et peut-être même pour ceux qui regardent.
Est-ce qu'on est forcément dérangé soi-même quand on regarde ce genre de stream, ou est-ce que, quelque part, et c'est ça qui est peut-être pervers, n'importe qui peut être tenté de suivre ce genre de live ultra-violent, ou en tout cas dégradant même pour l'individu?
Oui, alors je pense que peut-être qu'il y a un mélange des deux. Hein. Je dirais qu'il y a un malaise, mais qui va créer d'une certaine manière une forme d'excitation. C'est peut-être là où se situe quelque chose qui serait entre le masochisme et le sadisme. Quelque chose qui n'est pas clair, une ligne un peu limite. Et finalement, moi j'ai tendance à penser que cette forme d'empathie nécessaire qu'on devrait avoir, cette forme d'hypocrisie sociale que l'on a qui fait qu'on ne va pas, même si vous vous vannez pas mal, mais bon, ça reste des blagues, l'humour est essentiel. Là, on n'est pas dans l'humour. Alors d'ailleurs, j'aimerais dire, pour moi, le début de tout ça, c'est quand même la télé-réalité. La télé-réalité, on se rend
c'est
pas compte.
C'est du trash streaming,
pour vous. Oui, pour moi, il y a une forme de trash streaming et Internet est devenu une forme d'Internet-réalité où les gens, justement, se retrouvent, surtout dans le streaming, à se retrouver à être des formes de cobayes, je dirais, où on peut baisser le pouce ou le lever.
Zimzel, Mathieu Noël sur France Inter.
Zoom Zoom Zen en direct du studio 104 cet après-midi, un public en folie. Un pogo a failli démarrer sur Marilyn Manson. C'était vraiment une grosse ambiance. La journée santé mentale, des solutions existent, continue. Et nous, on a choisi de zoomer sur un phénomène assez terrifiant parce qu'il dit beaucoup de nous, le trash streaming. On est toujours avec le psychologue spécialiste des mondes virtuels, Michael Stora. À ce stade, il faut se rappeler nos cours de philo pour comprendre ce que vous dites. On se souvient du moi, du surmoi et du ça. Et c'est ce ça qui joue un rôle important dans ce phénomène du trash streaming, si j'ai bien compris.
Oui. Alors, bon, invention freudienne, hein, oui. Premier topic. Bon, en gros, le ça étant ce réservoir un peu bouillonnant de tout ce qu'on refoule, un petit peu des choses qu'en général, on met de côté et qui, finalement, et je dirais, il y a derrière un garde-barrière qui s'appelle le surmoi et qui dit non, tu passes pas.
Ça va pas.
Ou ça passe dans le rêve. Hein. Ah, oui. Finalement, ce qu'on observe quand même, c'est vrai avec... D'ailleurs, la haine en ligne, hein, pas que le trash streaming, toutes ces choses-là, c'est qu'il y a une désinhibition totale. C'est ce qu'on disait, on a cette forme d'hypocrisie nécessaire qui nous permet, avec l'empathie, mais étrangement, lorsqu'on est derrière son écran, tout ça saute. Donc il y a une sorte de désinhibition qu'on retrouve, d'ailleurs, pourquoi pas dans certains bars, quand les gens ont un peu trop bu. Hein, c'est à peu près du même ordre. Et c'est ce qui fait que, finalement, on va pouvoir enfin libérer cette force du mal, cette bête qui est en nous, parfois pour le meilleur. Moi, je pense aux gens très inhibés, très timides, qui osent être un peu celui qui ne peut pas être, mais aussi parfois pour le pire, évidemment, des personnes qui vont vraiment chercher à créer le mal.
Mais on sait un peu quel est le profil de ces amateurs de trash streaming. Par exemple, si on parle de Jean Portmanov, c'était quand même des hommes qui regardaient des hommes, une chaîne d'hommes. Est-ce que c'est plus des hommes que des femmes, par exemple ?
Alors c'est terrible, j'avoue que je ne sais pas exactement s'il y avait plus d'hommes qui regardaient Jean Portmanov, mais souvent on disait ce sont des gens dits normaux, ce qui est un peu étrange. Mmh. Donc bon, moi j'avais un prof qui avait le terme de normopathe, donc la pathologie de la normalité, c'est plutôt finalement assez inquiétant, mais c'est nous tous, c'est monsieur et madame tout le monde. Et peut-être, alors c'était intéressant parce qu'il y a eu, lors du premier procès de gens qui ont eu des propos de haine en ligne, souvent racistes, eh bien on s'est rendu compte que ces personnes, moi je pensais que c'était des gens d'extrême droite, vraiment, pas du tout. C'était un peu monsieur et madame tout le monde, mais avec une particularité entre autres, c'est que c'est des gens qui travaillent dans le monde du service, c'est-à-dire des gens qui sont au service des autres, qui subissent peut-être au quotidien des pressions d'être au service des autres, peut-être aussi un manager un peu toxique, toutes ces personnes-là qui accumulent des frustrations tellement de colère qu'enfin ils vont pouvoir peut-être dans une sorte de shoot d'adrénaline quoi, décompresser, échappatoire. On est plutôt du côté de la décharge.
Jusqu'où ça peut aller? Alors on a vu jusqu'où c'est allé, mais jusqu'où ces amateurs de vidéos sadiques peuvent aller pour être satisfaits? Payer plus, payer davantage. Il y a aussi une notion d'argent.
Je ne sais pas si c'est des amateurs sadiques. Vous voyez, c'est plus compliqué parce que ce que je tente de dire un petit peu, c'est que ces personnes, parfois, pour moi, ça vient trahir un mal-être profond. Peut-être des symptômes un peu de déprime et que, d'une certaine manière, l'angoisse que provoquent ces images ou autres peut être une forme d'antidépresseur. Donc peut-être que plus on va regarder des vidéos catastrophiques ou inquiétantes, plus... ça vient trahir quelque part qu'on va pas si bien que ça. Et qu'on a besoin, dans un effet cathartique un peu, comme je dis, des jeux du cirque, pour pouvoir vivre comme décharger quelque chose. Mais d'après moi, c'est un peu monsieur, madame, tout le monde. On passe tous par des périodes. On peut tous regarder parfois des chats un peu sadiques sur TikTok, par exemple.
Après la mort de Jean Portmanov, dont on a parlé, vous disiez dans Libé que tout ce qui est différent est un miroir déformant de la haine de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, pardon, on n'est pas sur France Culture. Personnellement, je n'ai pas compris.
C'est un des mécanismes qu'on retrouve dans le racisme. C'est-à-dire l'étranger nous inquiète. Il y a toujours eu cette inquiétude face à l'étranger, donc on va rejeter cet étranger. Mais on se rend compte que souvent cet étranger, c'est aussi cet étranger en moi. et que la haine de soi, souvent, est tellement forte qu'on va devoir finalement projeter sur un autre, reprocher à l'autre ce que profondément je ne veux pas voir en moi. Et c'est vrai que c'est exactement un des mécanismes du racisme qui a pour origine la peur, la peur de quelque chose en soi. Et donc c'est vrai que finalement ce rejet me permet de me dédouaner de quelque chose qui crée de la honte, voire de la culpabilité.
Et vous, est-ce que vous versez parfois dans le trash streaming? Est-ce que vous avez des proches qui consomment ce genre de programme? Quentin, qui n'a aucun respect pour votre vie privée, est allé vous poser la question dans la rue.
Et mes rencontres du jour commencent par Aloïse et Malo. La petite vingtaine, ils sortent de cours et roulent une cigarette. Ils sont en prépa littéraire. Premier avis sur le trash streaming.
Est-ce que ça a un rapport avec le streaming sur Twitch et tout, genre les... Est-ce que ça a un rapport avec la mort de quelqu'un il n'y a pas très longtemps? Oui, d'accord, je vois totalement de quoi ça parle alors.
On parle de la mort de Jean Portmaneuve. Il me confie que le problème vient des plateformes et des gens qui diffusent sur ces plateformes. Mais la responsabilité ne repose-t-elle pas aussi sur ceux qui regardent?
Ah oui, carrément. Mais ceux qui regardent sont autant des merdes que ceux qui produisent. Je pense que c'est inadmissible de regarder la violence humaine de cette manière. Enfin, déjà, il y a une banalisation de la violence, il y a une monétisation de la violence et... ça nous déshumanise en quelque sorte aussi.
Et il y a aussi ce problème de savoir à quel point on peut réguler, parce que ce qui s'est passé, c'est sur la plateforme Kick, qui est une plateforme qui n'est pas du tout aussi régulée que Twitch. Ça, en fait, ça rentre dans la question de est-ce qu'on doit réguler ces contenus-là, alors que ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas être une question de savoir est-ce qu'on autorise des gens à maltraiter d'autres gens pour de l'argent et pour faire de l'audimat.
C'est vrai que c'est cocasse que le débat qui se pose soit encadrement et liberté quand on parle de la mort d'un homme en direct. Je repense à cette conversation quand soudain...
Vous êtes quant à lui, de Zoom Zoom Z?
Ouais.
Mais incroyable. Allez. Non, alors en vrai, premier degré, ça fait des mois que je me dis j'ai trop envie de vous croiser dans Paris.
Ouais, c'est une blague.
Les gens dans la rue, à chaque fois, je me dis oh, j'aurais eu un truc hyper pertinent à dire là-dessus. Et du coup, je suis contente de vous croiser.
Eh ben, on va voir. Et comme c'est une journée spéciale santé mentale sur France Inter, on est en direct du studio 104. Vous pouvez dire bonjour au studio 104.
Eh bah, ben bonjour le studio 104. Incroyable. Oh là là, c'est mon moment là, c'est bon.
Marie,
quel
Marie
showman.
Qui m'a reconnue, est guide touristique à Paris et donc auditrice, visiblement. Elle découvre le mot du jour de Zoom Zoom Zen.
Le trash streaming. C'est ultra choquant de voir ça en live. Enfin, ah, c'est ultra choquant.
Qu'est-ce que ça vous inspire, ce truc-là? Bah, de l'époque.
Bah, c'est vraiment ultra voyeuriste, mais plus quoi.
Mais est-ce que l'humain n'aime pas ça, au fond?
Bah si, bah, c'est un peu comme ralentir à côté des accidents sur l'autoroute, mais au chaud derrière son ordi quoi.
Marie est choquée surtout de l'âge que peuvent avoir les jeunes qui regardent de telles images.
Enfin, pour des cerveaux qui sont pas matures en plus, il me semble que la maturité du cerveau c'est genre vers 25 ans. Donc tout ce qu'on peut voir avant ça, ça peut être hyper choquant. Ouais. Mais moi, ça m'évoque presque, je sais pas, les trucs hyper trash qui peuvent exister dans le porno, par exemple, où on peut voir ça à un âge hyper jeune. Et en fait, ça reste avec nous, quoi.
A-t-elle raison, Marie, de comparer le trash streaming à certaines dérives du porno? On en parlera. Je rencontre Daniel maintenant, la veste de costume verte, le foulard orangé, le cheveu blanc et l'œil taquin. Il a 83 ans. Je lui raconte le trash streaming, ses défis filmés, monétisés, qui peuvent conduire à des drames.
Ah, ça ressemble à James Dean. James Dean faisait des courses de voitures à qui s'arrêterait le plus loin sans tomber dans l'abîme. Ça, c'est mon temps, oui.
Et il a perdu.
Ça, je suis pas sûr. Je crois qu'il est mort de sa belle mort.
James Dean?
Oui.
Il est mort au volant de sa voiture.
Ah bon, d'accord. Ouais. Pauvre vieux. J'espère que c'était une Ferrari.
C'était une Porsche, je crois.
C'est pas loin.
Pauvre vieux. Je demande à Daniel s'il parle avec des jeunes qui sont autour de lui, s'il prend aussi le temps de s'intéresser à leur monde.
J'ai aucune idée, j'ai beaucoup de mal à parler avec les jeunes parce que j'ai l'impression d'attaquer, enfin de ne pas comprendre ces personnes-là. Ils n'ont pas été éduqués comme moi.
Oui.
Un coup de pied dans le cul.
Bon, pas sûr que ce soit le meilleur conseil de la journée santé mentale sur France Inter, mais ça raconte quelque chose du fossé qui se creuse aussi entre les générations, les jeunes justement. Fin d'après-midi, sortie de cours, je rencontre ces trois copines de 17 ans, Mona, Sienna et Agathe.
Le trash streaming? En fait, depuis tout jeune, on voit déjà des choses choquantes sur Internet. Même, il y a des sites Internet qui s'appellent Watch People Why, où c'est des gens qui se... des vidéos des gens qui meurent et qui ont des vidéos sur ça. Et mes potes me les montrent comme ça, donc personnellement, moi, ça me choque pas trop.
Je leur demande si tous les contenus qu'elles regardent ont un impact sur leur santé mentale.
TikTok, en fait, ça t'influence à aller mal pour moi, genre.
Tu sens que ça joue sur ton propre moral à toi?
Ouais, beaucoup. Ouais, beaucoup, hein. Par exemple, moi, pendant une semaine, j'avais pas eu mon téléphone, je me sentais hyper bien. Je l'ai re-eu parce qu'il était cassé, je l'ai re-eu. Je vais sur TikTok, je commence à scroller et tout. Mais TikTok, c'est vraiment un cercle vicieux.
Je leur demande, on fait une pause et je leur demande simplement comment elles vont en ce moment.
On est sous toutes les trois médicaments, hein.
Ouais, c'est vrai.
Antidépresseurs, hein.
Antidépresseurs.
Là, toutes les trois, vous êtes sous antidépresseur?
Ouais. Tous les matins.
150 mg.
Ouais, tous les matins, il faut qu'on prenne.
On ne se diagnostique pas dépressif comme ça. C'est,
on faudrait voir le psy.
Ouais, c'est au bout d'un certain temps, on te dit, bah en fait, là, si tu n'arrives pas à te lever et que ça fait 2 mois que tu es dans ton lit et que tu n'arrives même pas à te laver, bah c'est que tu es vraiment en dépression.
Et ça vous est arrivé?
Ouais. Je pense que vraiment, dans une classe, sur 30 personnes, je pense qu'en moins 25 vont voir un psy.
Alors le vrai trash, ce n'est peut-être pas uniquement la mort en streaming, c'est aussi une génération, cette génération qui dit « je vais mal » comme si c'était normal.
Merci Quentin Michael Stora, je vais être franc, je suis un peu surpris par ce qu'on vient d'entendre, par ces ados, parce qu'évidemment on parle santé mentale, on en parle assez souvent, on a fait plusieurs émissions dessus, on sait que chez les jeunes c'est un vrai problème qui est formulé, on sait qu'ils vont voir des psys. Là, que ces trois lycéennes soient toutes les trois médicamentées et que dans leur classe elles estiment qu'il y a 25 élèves sur 30 qui ont des problèmes de santé mentale, est-ce que ça c'est représentatif de ce que vous croisez?
Alors moi c'est compliqué, je reçois des dans mon cabinet, donc ils viennent parce qu'ils vont mal, mais après selon les grandes études, ça me paraît énorme, hein, 25 sur 30, je suis un
ça
peu impressionné. Bon, c'est un phénomène, on est tous d'accord en psychiatrie, en pédopsychiatrie, qu'il y a quelque chose. Alors est-ce que parce qu'on en parle plus, mais quand même, depuis 30 ans on observe malheureusement une dégradation, c'est très compliqué, c'est pas une seule raison. On observe que la parentalité a évolué depuis 30 ans, que beaucoup, il y a cette sorte de surattention au bien-être de l'enfant, épuise aussi bien les parents, mais fait que l'enfant n'est pas totalement préparé au monde, à la réalité. Et donc aussi, les réseaux sociaux, pas simplement parce que c'est des images, mais parce que les images qu'on nous propose sans cesse rappellent à beaucoup d'adolescents, puisque je suis plutôt, disons, je reçois plutôt des ados, qu'ils ne seront jamais à la hauteur de ces idéaux-là, pourtant dans lesquels ils ont été aimés. Donc il y a une sorte de dichotomie qui fait que ça crée des gens très fragiles narcissiquement. Pour répondre d'ailleurs, c'est plutôt des filles. C'est un peu les études qui montrent qu'il y a beaucoup plus de filles qui malheureusement font des TS. Donc là, il y a peut-être quelque chose à creuser, mais c'est un vrai sujet.
Tentative de suicide. Ouais.
Ces jeunes filles, on les a entendues, elles vont sur TikTok, elles disent qu'elles vont mal en allant sur TikTok, pourtant elles y vont quand même, elles y retournent. Comment on peut expliquer ça?
Alors, ce qui est vrai, c'est que la question c'est est-ce que parce que je vais mal, je vais sur TikTok ? Petite décharge de dopamine à chaque vidéo qui me crée un petit bien-être. Ou est-ce que TikTok, on a pu voir, alors ça serait une vraie émission à part entière, j'ai été moi-même auditionné, vous savez, par l'Assemblée sur la commission TikTok. Ce qu'on observe en effet, c'est que si je vais mal, je vais taper des mots-clés qui vont petit à petit m'enfermer dans une bulle algorithmique terriblement dépressiogène. Et là, à partir de ce moment-là, oui, concrètement, ça va avoir un effet amplificateur sur un mal-être. Mais l'adolescence, rappelons-le, c'est pas une période super cool. C'est aussi une période de transition. Il y a aussi une souffrance adolescente qui est nécessaire. Mais néanmoins, après, peut-être que justement, il y a peut-être d'autant plus une angoisse à devenir adulte.
Mais quand on est parent aujourd'hui, comment faire de la prévention à ces ados, à ces enfants concernant les réseaux sociaux? On a l'impression que c'est un peu mission impossible aujourd'hui.
C'est vrai. Alors, je pense que être parent d'ado, c'est pas le meilleur poste pour faire de la prévention, parce que les parents sont considérés par beaucoup d'ados comme des vieux cons. Ce qui fait beaucoup souffrir les parents. Néanmoins,
texto de mon fils, je vous confirme.
Ouais. Alors, moi, je pense que, encore une fois, c'est vrai que l'éducation nationale, mais je pense qu'elle n'est pas toujours au bon endroit, mais l'éducation numérique, c'est organiser des groupes de parole. Les ados adorent aussi parler de leurs pratiques.
Mais pas à leurs parents.
Pas avec leurs parents, non. Voilà. Ou alors, ce que je prône, c'est le partage. Pourquoi pas organiser une fois par semaine un rendez-vous où les parents et les ados parlent de leurs pratiques numériques.
Avec un intermédiaire avec
Non. Attendez, j'imagine que si vous avez un ado, il a pu vous dire, tiens, j'ai vu une vidéo sur YouTube, est-ce que je peux te la montrer?
Oui.
Voilà. Bon, moi, ça m'est arrivé aussi. Et donc, ça entraîne un dialogue. Parce que je pense que le grand drame, c'est que tout le monde est seul face à son écran à la maison.
Il faut parler de
et je pense qu'il faut parler de ce que l'on voit, échanger, partager.
France Inter. Zoom, zoom, zoom. Mathieu Noël.
Sadisme. Acte de cruauté gratuit, torture psychologique, jusqu'où iront les trash streamers sur Kick? Une chose est sûre, moins loin que moi dans le Zoom Zoom Test. Un quiz qui va nous entraîner aujourd'hui à la découverte de ce que le live stream propose de pire, mais avant cela, une parenthèse pour rappeler que, bien utilisé par des personnes saines d'esprit, les live streams permettent d'exprimer ce qu'il y a de meilleur dans l'homme, et aussi dans la femme. On citera notamment la chaîne Twitch de Manon, Pinceau Coquin, sur laquelle elle diffuse ses sessions de coloriage érotique, mention spéciale à la session du 19 septembre consacrée au nu de Pedro Pascal. Citons aussi Fisk Fucking, Fisk Fucking, la chaîne Kick de Quentin qui propose des tutos d'optimisation fiscale entre deux chansons de Florent Pagny. Quant à Cyril, notre rédacteur en chef filloniste, il se dévoile sur son stream entre côtes, entre couilles, où il reçoit une personnalité pour parler anti-wokisme et bidoche, mon préféré étant celui où un Gaspard Proust au bord des larmes évoque sa passion croisée pour Éric Ciotti et la saucisse de Morteau. Mais hélas, tous les live streams ne sont pas aussi intéressants que ceux que je viens de citer, loin de là. Certains, disons-le, sont même carrément cons. Direction tout d'abord une université où normalement on croise peu de cons, Cambridge, où de 1993 à 2001, des ingénieurs du labo informatique vont diffuser sans interruption un contenu bien particulier sur le site de l'université. D'après vous, que nous proposait ce précurseur des live streams? Un gros plan de la serrure des toilettes afin que chaque chercheur puisse savoir à tout moment qui était aux toilettes, ou si c'était occupé. Un gros plan de la cafetière du labo pour savoir à tout moment s'il restait du café. Ah. Ou un gros plan sur le couloir qui mène à la cantine pour savoir à tout moment s'il y avait la queue ou pas.
Mais, pardon.
Et vous êtes obligé de crier, Manon.
Jeter sur la réponse, ouais. C'est... Et ce serait très pratique à Radio France.
Bah, même la B, c'est pratique. Hein.
Mais, ouais, pour Gérald.
Oui, pour Gérald, le pauvre.
C'est une bonne réponse, Manon, c'est la réponse B. Effectivement, on aurait adoré la C à la maison de la radio, mais il s'agit bien de la B. 1991, dans un labo informatique de Cambridge, équipé d'une seule machine Nespresso pour tous les chercheurs, deux d'entre eux, les plus feignassous qui en ont marre de se lever pour rien, décident d'installer une caméra pour savoir en temps réel quand l'appareil a été rempli ou pas par les autres. Ils créent un programme informatique permettant de transmettre les images. Ils inventent donc ainsi en même temps la webcam et le live stream, lequel va durer quand même 8 ans, le Trojan Room Coffee Pot est son nom. Mais restons dans les années 2000, on y est si bien. Le président Chirac sort enfin le pays de la boue gauchiste et le Hummer H2 est enfin disponible à la vente. C'est aussi en 2000 que Mitch Maddox, aka Dotcom Guy, va marquer l'histoire de la toile avec un défi filmé d'un an, qui consistait à ne prononcer aucun mot pendant un an, ne sortir sous aucun prétexte de chez lui pendant un an, ah, ou ne vivre qu'en commandant sur Internet pendant un an.
C'est sûr.
B, la BSC, du coup, ça marche.
Oh, Quentin, bravo, oui, BSC, ah. Vous vous êtes repris, effectivement, ce qui n'est qu'un dimanche de gueule de bois ordinaire pour Manon.
Ah. Ça va, personne m'a applaudi, moi. Bravo.
C'est normal, c'est fou. Hein. Mais tu gagnes tout le temps, oui, et t'es méchante. Dans la...
Je suis la plus gentille, selon ChatGPT.
Ce pionnier du web a donc vécu dans sa maison de Dallas pendant un an sans sortir, achetant toute sa nourriture et ses produits de première nécessité en ligne. Visionnaire, il avait inventé le confinement. Un peu trop tôt malheureusement, car en 2013 il aurait pu tromper son ennui avec un live de dingue. Mettons le cap à présent pour la Norvège, patrie de ce qu'on appelle la Slow TV. Vous savez, ces chaînes qui diffusent des plans fixes de trucs apaisants comme la nature. Depuis la rentrée, France 3 diffuse par exemple un live stream intitulé Le Brame du Cerf, qui consiste à nous montrer en temps réel ce qui se passe dans la forêt de Rambouillet. Et ça marche.
Eh
bien, en 2013, les Norvégiens ont réussi à faire plus chiant que ça. Ils ont proposé pendant 9 heures la National Strickveld, qui est, comme vous le savez, car vous parlez norvégien, la nuit du canoë, toutes les étapes nécessaires à la construction d'un canoë pour découvrir les fjords. La nuit de la bûche, 12 heures de direct sur le bois de chauffage.
Pas sur...
Ou la nuit, non, la nuit du tricot, toutes les étapes filmées en continu de la tonte au pull fini.
C'est...
Mais j'ai envie de dire B, moi.
C.
Vous avez envie de dire
B et C.
Vous avez envie de dire B et C.
Bien sûr.
Vous dites B et C. Ouais. Mais Quentin, c'est votre jour. 10 heures.
C'est pas possible.
Pour une fois qu'on est en public, tu perds,
Manon. Oui, bah super, vous faites gagner.
10 heures à regarder du tricot, ranimer Manon, 10 heures. Et le meilleur dans tout ça, c'est que la chaîne NRK a diffusé ce live stream, a fait 25% de part de marché, soit 5 fois plus que TBT9 sur W9. Et, avis aux puristes, il y a bien eu également une nuit de la bûche. Quentin était même le parrain de cette soirée. Rapport à son surnom, pas à la musique des sept nains, me permettrait pas. La nuit de la bûche, encore une antithèse du trash streaming, puisque cette nuit-là, devant leur écran, 20% de la population norvégienne va communier, assistant captivé à un direct à toutes les étapes clés du chauffage au bois, de l'abattage des troncs au séchage et enfin à leur combustion dans une cheminée, une sorte de zoom zoom zen de la cheminée. Et pourtant, ce programme suscita polémique et débat, si j'ose dire enflammé, des internautes. Pour quelles raisons selon vous? Parce que des gens sont morts d'ennui devant ce programme. Il y a eu un gros débat pour savoir si l'écorce devait être tournée vers le haut ou vers le bas dans l'empilement des bûches. Ou gros débat pour savoir pourquoi un dénommé Pierre Courade, présenté comme un expert en tout, est venu donner son avis à la fin du programme alors que personne ne lui demandait rien.
B.
A et B, B parce que potentiellement, il y a peut-être des gens qui sont morts.
Ça marche une fois, il y a deux réponses. Bonne réponse de Manon, c'était seulement la B, effectivement, en Norvège. Bravo Manon qui marque un petit point.
Merci.
Le point pour sauver l'honneur quelque part.
J'en ai deux.
Voilà. En Norvège, donc ils se prennent la tête sur le sens d'empilement du bois. Énorme succès de cette nuit de la bûche qui, espérons-le, ne donnera pas des idées à Quentin. Victoire exceptionnelle pour une fois en public. De Quentin, lui.
On a égalité, Mathieu.
Ça n'arrive jamais.
On a égalité.
Vous lui portez chance. Pas du tout.
Merci à tous.
C'est
et là,
fou.
Attendez, je peux
c'est
le dire.
Fou.
Merci à tous.
Il n'y a plus d'accord.
Le psychologue et psychanalyste Mickaël Stora est toujours avec nous cet après-midi dans le cadre de la grande journée inter sur la santé mentale pour décrypter le phénomène du trash streaming, ces programmes glauques diffusés en direct sur Internet et qui malheureusement pour l'humanité rencontrent un grand succès. Dans le public, vous allez pouvoir poser vos questions justement tout de suite. Finalement, me fait signe qu'on a envie de vous entendre, les auditeurs d'Inter ont envie de vous entendre. Est-ce que vous avez des questions, Pierre Courade et la courroie de transmission qui va
énormément de questions vous donner le micro. Au standard et dans le public, effectivement, Mathieu. Notamment une question de Caroline de Sèvres qui est avec nous, Caroline, qui a une question à poser à notre invité, Mickaël Stora.
Oh là là, mais ma santé mentale va changer. Je ne savais pas que j'allais parler en direct. Voilà. Messieurs, dames, bonjour.
Bonjour,
je me demandais si, dans le cadre de l'enseignement, vous partagez cette idée que depuis le Covid, où tous ces jeunes se sont retrouvés enfermés avec tout qui passait par les écrans, des parents plus ou moins occupés, plus ou moins soucieux, etc. Moi, j'ai vraiment clairement l'impression que tout a explosé. C'était déjà le cas, mais c'est bien pire depuis. Et on a du mal à en sortir de ce truc-là. Merci.
Alors, écoutez, moi, je vous donne un point de vue. Les problèmes étaient déjà présents, malheureusement. C'est quand même un phénomène qu'on observait dans le domaine de la santé mentale et de l'aggravation. Mais en effet, le confinement est venu comme révéler ou amplifier un phénomène préexistant. Mais oui, ça a en effet eu un impact, tout en sachant que moi, un peu spécialisé dans les gamers, pour certains un petit peu excessifs, eux, c'était leurs plus belles années de leur vie, puisqu'il n'y avait aucune culpabilité. Tout le monde était confiné.
Courade, encore une question dans le public.
Oui, une question, peut-être même une réflexion d'Adrien qui nous vient tout droit de Londres, comme quoi, franchement, les gens viennent du monde entier pour venir nous voir, Mathieu.
Ça va, Londres, il y a juste l'Eurostar.
Adrien, c'est
du monde entier.
Adrien, c'est une question, voire une réflexion un peu plus générale sur la santé mentale.
Bonjour, alors ma question, après avoir entendu le témoignage des lycéennes, le fait d'avoir 25 sur 30, peut-être qu'ils vont à un psychologue, c'est assez surprenant. Mais je me demandais, je voulais savoir si vous pensez que c'est peut-être une bonne idée de voir un psychologue, même si on n'est pas encore dans un état d'avoir des problèmes de santé mentale. Moi, personnellement, j'ai commencé à voir un psy. Tout le monde m'a dit « Ah, mais ça va pas ?» Mais j'ai dit « Non, ça va très bien. » J'avais juste envie de parler de bon, ce qui se passe dans ma vie. Et au cas où, et je développe peut-être des trucs qui vont pas bien, du coup, c'est un peu en prévention.
Il va pas vous dire non. Hein. Lui, ça l'arrange que vous consultiez.
Ouais.
Hein.
Oui. Alors moi, je pense que oui, en soi, bien se connaître, apprendre à mieux saisir qui l'on est reste un enrichissement. Évidemment, c'est mieux d'aller voir un psychologue et tiens, je vais me permettre que d'aller parler à ChatGPT. Ça me paraît évident. Je me permets de penser que faisons très attention à ces nouveaux agents conversationnels tirés de l'IA qui, comme vous le savez, parfois font flamber. Donc, préférer une relation humaine. Après, il faut savoir, je me permets un petit conseil, un psy, c'est comme un médecin. C'est-à-dire, si le premier ne vous convient pas...
On a le droit de changer.
On a le droit de changer. Hein, on n'est pas obligé d'être figé. Voilà, c'est important de sentir qu'il y a une bonne alliance thérapeutique.
J'ai perdu Courade dans la salle, il est tellement petit.
Je suis là, au premier rang,
il était juste assis.
Pierre, une autre question peut-être du public.
Une autre question, oui, de Caroline, ou de Flavie, pardon. Caroline, on l'a écouté tout à l'heure. Flavie qui est venue à pied, c'est beaucoup moins loin que Londres, mais c'est quand même pas mal. Une question, une réflexion que vous aviez formulée à notre invité, Flavie.
Oui, bonjour Flavie Verret. J'avais une remarque en ce qui concerne le trash streaming. Est-ce que vous considérez que c'est quelque chose qui remplace les films d'horreur que nous, on a commencé à connaître à nos époques, qui maintenant sont pas suffisants et les gens, il n'y a pas que les jeunes, mais même les adultes aussi, cherchent une énorme décharge d'adrénaline. Le fait de savoir que c'est vrai, c'est encore plus horrible. Et du coup, ça déclenche encore plus de choses au niveau du cerveau, en fait. C'était ma question.
Alors, oui, c'est intéressant. Moi, je ne suis pas neurologue, donc je vais avoir du mal à répondre sur toutes ces histoires-là. Mais quand même, un film, c'est une fiction. C'est-à-dire qu'on se prend au jeu à croire que c'est vrai tout en sachant que c'est faux. Ça fait partie du plaisir. On a vu d'ailleurs une dérive des films d'horreur qui sont devenus de plus en plus cruels. Où la torture, c'était pas forcément avoir peur. Donc profondément, je pense que la fiction reste quand même quelque chose, même s'il y a des dérives, beaucoup plus intéressante.
Et sain.
Et sain, en effet, qu'une réalité de quelqu'un qui se fait torturer.
On n'a plus de temps, mais dernière question, est-ce qu'on en sort de l'addiction au trash streaming? Est-ce que quelqu'un qui vient vous voir et vous dit « moi, je regardais Jean Pormanov, machin, et j'ai aimé ça, j'ai honte », est-ce qu'on peut l'aider?
Oui, alors ça va être un peu long, parce qu'il faudra essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière, quelle histoire il a, etc. Mais c'est pas forcément... Mais alors, une addiction à ce type d'émission, j'ai jamais rencontré un cas de ce type. Maintenant, oui, il y a des addictions, on le sait, au virtuel d'une manière globale, et on voit bien des gens qui, à un moment, ont besoin, comme d'ailleurs certaines chaînes d'infos en continu qui diffusent des images terribles tout le temps.
Je ne vois pas de quelle chaîne d'infos vous parlez. Il est 16h47, vous écoutez Inter. Ma chère Manon Mariani, oui. Dans votre pièce jointe aujourd'hui...
Eh bien, un mythe, celui du snuff movie, ce terme popularisé dans les années 70, qui désigne une vidéo où l'on verrait un meurtre, une torture ou un viol réel filmé dans le but d'être diffusé et d'être vendu. Alors, contrairement à un film d'horreur classique qu'on vient d'évoquer, la victime n'y serait pas un acteur, mais une véritable personne. Le mot apparaît pour la première fois en 1971 dans The Family, un livre sur Charles Manson. Dans le livre, un membre de la famille Manson déclare qu'un film existe autour des meurtres du gourou, un snuff movie. Mais c'est en 1976 que le phénomène explose avec le film Snuff. La scène finale du film serait censée montrer le meurtre barbare d'une actrice, le meurtre réel. Mais il ne s'agit heureusement que d'un coup marketing. Le scandale est tout de même énorme. Des enquêtes de police sont carrément ouvertes. La rumeur d'une industrie clandestine du snuff movie se répand. Et puis dans les années 80, un film italien va aussi venir exploiter la veine de ce réalisme extrême. Il s'appelle Cannibal Holocaust et le réalisateur est poursuivi en justice car il est accusé d'avoir filmé de véritables meurtres. Les acteurs devront venir témoigner pour venir prouver qu'ils étaient bien en vie. On apprendra quand même que les mises à mort d'animaux dans le film étaient, elles, bien réelles.
Merci Manon, et j'essaie de rechercher sur internet le titre d'un excellent film avec...
J'ai pas terminé.
Ah pardon, excusez-moi oui. Manon, excusez-moi Manon, j'ai loupé une relance, une Cyril la carrière, oui. Comme on dit dans le petit milieu de la radio, mais oui. Mais du coup, c'est la question qu'on posait tout à l'heure, est-ce que ça existe vraiment, les snuff movies?
Eh ben c'est un peu la grande question autour de ce genre. En 2001, une journaliste française publie une enquête menée auprès d'Interpol et du FBI, où elle conclut que les snuff movies relèvent plutôt de la légende urbaine et des rumeurs en ligne. D'autres sociologues et spécialistes disent la même chose, mais évidemment, on l'a dit, internet a tout changé. Des affaires criminelles ont nourri le mythe des snuff movies. C'est le cas de l'affaire de Luca Magnotta, le dépeceur de Montréal, qui a mis en ligne la vidéo montrant la mutilation de sa victime. Il a aussi filmé de la torture d'animaux. En 2015, il y a aussi eu l'affaire Peter Scully, arrêté aux Philippines, qui diffusait sur le dark web des vidéos de torture et de meurtres d'enfants vendus à prix d'or. Des médias ont qualifié ces horreurs de snuff movies. Mais là où le snuff des années 1970 relevait plutôt du fantasme collectif pour se faire peur, ce qu'on appelle aujourd'hui le trash streaming, fait entrer la violence réelle dans nos flux en direct et sans filtre.
Merci Manon, et je crois que le titre du film avec Johnny Depp sur le snuff movie, c'était The Brave, et c'était un sacré navet, je crois.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Il n'est pas que cette courroie de transmission qui va vers vous, dans le public du CIO 104, pour vous interroger sur la santé mentale. Il est aussi celui qui nous résume tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono. Pierre Courade.
Et comme l'an dernier, on a invité aujourd'hui le psychologue Michael Stora pour cette journée spéciale santé mentale sur France Inter. Michael, c'est comme Jack Lang pour les personnalités décédées. Dès qu'on parle de santé mentale, on l'appelle et il est déjà en studio. Aujourd'hui avec lui, on a parlé de trash streaming, cette appétence que l'on a pour regarder des images de plus en plus violentes sur Internet. Michael Stora estime que si nous sommes tous plus ou moins voyeurs, Internet a généralisé le phénomène. Pire, les plateformes savent que ce genre d'image attire, elles capitalisent sur cette pulsion. En fait, Michael Stora nous a expliqué qu'on est là sur une ligne floue entre masochisme et sadisme, une désinhibition hypocrite qui saute quand on est derrière un écran, une sorte d'échappatoire qui traduit un mal-être et tout le monde peut aller moins bien à un moment donné dans sa vie. Finalement, le trash streaming, c'est nous tous.
Merci beaucoup Pierre. Sous les applaudissements du public du Studio 104.
Merci à tous.
Et encore des applaudissements pour celui qui vient nous rejoindre en studio. Vous ne rêvez pas, cher public, c'est bien lui. Voici notre majestueux Guigui Pop.
Oui, salut, c'est Guigui, deux fois Guigui, ainsi que Guigui, double Guigui, puis Guigui. Quand je dis Guigui, vous dites Guigui, ok? Guigui,
Guigui,
Guigui, comment je m'appelle ?
Guigui.
Voilà, bonjour Mickaël. Je présente Guigui Pop, alias Guigui Pop-Up, spécialiste du web, aficionado de la toile, comme nous l'indiquent les deux dernières lignes de mon historique Firefox, francetravail.fr et que signifie le mot pop-up ? Bon, c'est la journée spéciale santé mentale sur France Inter, à ne pas confondre avec la journée sans émental, pour laquelle on n'aurait peut-être pas fait 24 heures d'antenne. Voilà, je propose qu'on reste pas non plus 24 heures sur cette première vanne, si ça vous va. Mais vous savez, avec avoir un bon jeu de mots pour un humoriste, c'est comme opter pour l'osso buco à la cantoche. À un moment donné, on ne peut rien y faire, il faut que ça sorte. Oh. Aujourd'hui, on parle donc de trash streaming, des lives où les streamers commettent des actes dégradants sur eux-mêmes ou d'autres personnes, parfois en situation de handicap. Mais attendez, on est sur Internet ou chez le primeur, parce qu'on se fend la poire. Et oui, si vous vous demandiez par hasard si l'homo sapiens n'avait pas pris la mauvaise sortie sans mettre le clignot, eh bien, spoiler alerte, c'est le cas. Et à la manière de Stephen Hawking à la piscine, nous avons malheureusement touché le fond. Oh. Allez, non. Tous ensemble, on va tenter de se remonter le moral. Quand je dis le monde, vous dites va mal. Le monde,
va mal.
Quand je dis la planète, vous dites va mal. La planète,
va mal.
Quand je dis Cyril, vous dites augmente Guigui, s'il te plaît. Une mérite. Cyril, merci, merci. Triste monde où les gens sont prêts à tout pour obtenir de l'argent. Heureusement que chez les humoristes, on a une certaine éthique et qu'on n'est pas prêt à tout pour avoir un rire. C'est faux, bien sûr. Regardez-moi, j'ai mis mon costume de flamant rose et j'ai ramené mon klaxon. Allez, musique. Vous savez, hélas, le maigre salaire de l'humoriste, c'est d'abord les sourires. Et heureusement que Cyril Lacarrière n'est pas gestionnaire paye, sinon j'aurais vraiment pas de quoi mettre de l'émental dans mon sandwich. Quel professionnel ! Il est retombé sur ses pattes, tel Hervé Matou. C'est une chronique ou c'est la place de l'étoile à l'heure de pointe parce que c'est un klaxon ? Le monde est décidément régi par l'appât du clic, à ne pas confondre avec la place du chic, la boutique de prêt-à-porter à Malakoff, dans laquelle vous avez 10% avec le code SAPÉ COMME JAMY. SAPÉ COMME JAMY. Mais je suis maître Guigims ou quoi, la team ? Bon, tout le monde me suit ? Allez, j'espère pas jusqu'à chez moi. Merci. Calmez-vous. Oui. Merci, merci, calmez-vous. Revenons à nos moutons. Ah non, pas du tout, c'est pas le bon, c'est pas le bon. C'est pas grave. Attendez, bon, c'est pas grave. Alors,
tout se mélange.
C'est du live, c'est parti. Rendez-vous compte qu'à mon époque, on regardait candidement Love Story et maintenant, la mode est au trash streaming. Tout se dégrade, Mickaël, à l'image de ma densité capillaire qui a laissé place il y a quelques années à un golf 18 trous. Mais j'ai pris la décision de ne pas me laisser abattre et de faire front. Pour ma part, j'ai perdu foi en l'humanité en avril 2022 lorsque l'influenceuse Stéphanie Matteau a décidé de vendre ses proutes. Passionnée de business, Mickaël, je m'étais rendu sur le site. C'est quand même 500 euros la perlouse. Oh bah, ça fait réfléchir. On se dit que finalement, le sobuco n'était peut-être pas une mauvaise idée. Et qu'on est passé à côté d'un sacré pactole. Mais qu'est-ce que c'est bien écrit ? Tac, tac, tac. Mais c'est qui ? C'est le talent. Bon. J'ose espérer que contrairement à moi, les mecs de cette équipe qui ont allègrement passé la quarantaine et qui ne peuvent plus rien y faire sans médicaments, l'homo sapiens va remonter la barre. Et pourquoi pas opter pour le bienveillant streaming ? Mesdames, messieurs, laissez-moi vous présenter le bienveillant streaming. Ici, il ne sera pas question d'humiliation, ni de violence, et encore moins d'argent, puisque comme vous le dites gentiment en commentaire de chaque chronique, et c'est payé avec nos impôts, ça ! Oui, le bienveillant streaming, c'est avant tout faire des compliments à ses collègues. Manon, tu es vraiment la plus belle meuf autour de la table. Vu que t'es seule, quoi. C'est... Quentin, tu as un bel avenir devant toi, puisque tu es en la personne de Mathieu qui est en face de toi. Et Pierre, toi, mon Pierrot, eh ben, quoi de neuf, toi, finalement, parce que... C'est vrai que t'as mangé un brookie ce week-end, j'ai vu dans ta story. Ouais, c'est un cookie, à la fois c'est un brownie, c'est vrai que c'est passionnant. Bon, après ça a l'air chiant comme ça, mais c'est peut-être pas la meilleure personne pour tester. Voilà. En tout cas, j'y crois. Allez, je vous laisse, je dois rendre le costume. Quand je dis merci, vous dites Guigui, merci.
Guigui.
Eh, merci, ciao.
Oh, tout a fonctionné, comme sur des rails. Merci, Guigui. On n'a plus le temps pour votre prono. On a explosé les temps. Mickaël Stora, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Comme chaque année, vous serez là l'année prochaine, évidemment, pour la prochaine journée de la santé mentale.
Zoom, zoom, zen.